RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Méliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Il y a un super soleil. Mais ce matin, il faisait glagla, hein, comme on dit le Parisien. Hein. Je me suis caillé, hein. Alors je ne vous dis pas quoi, les doigts. Bon, allez, les doigts, oui. Et alors, je vous ai préparé un petit cadeau. Ouais, j'appelle ça un petit cadeau. Figurez-vous que j'ai des livres qui n'ont été tirés qu'à 45 exemplaires, imprimés par Jean-Luc Tuillier sur différents personnages avec différents textes. Et là, on a le Noël Chilodeau, ça s'appelle Notes sur l'art, c'est-à-dire qu'il parle des arts, mais d'une certaine façon. Voilà. Hein. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je vous préviens que ce livre, il a 45 exemplaires, il vaut une fortune. Hein. Bon. Parce que c'est rare, hein, un livre. Alors, bah, remarquez, j'en ai bien, il a un seul exemplaire. Hein. Je vous expliquerai pourquoi, mais vous le savez, je vous le dirai. On en reparlera quand je vous lirai un poème de ce bouquin. Alors, l'art est un champ souterrain qui se cultive dans le fond de nous-mêmes, qui s'accroche, ou pas, à notre élan, à nos gestes, à notre parler de chaque jour. Tout artiste doit faire chanter avec toujours plus de force ce qui l'habite, ce qui se transforme, se poétise à sa vue. Ma propre vision des choses vibre au-delà du cadre, habite mon état intérieur et fait parler, interprète ce que je ressens au-delà d'un visage, d'un paysage, d'un groupe. Les gestes, les expressions, les formes me parlent, se mélangent et deviennent pour ma part unité. Je vois un personnage se transformer, porter en lui sa maison, la nature qui lui parle, son monde personnel et autour de lui ce qui explose, dans son propre champ. Je cherche aussi une matière qui m'attire afin d'interpréter avec plus de force et de vue ce qui me gifle, m'enlace, me caresse, me préférence, de préférence une matière. Une matière travaillée, badigeonnée par le temps, couronnée de vie et qui fait l'écho en moi-même. Un beau papier blanc, une belle planche m'intéresse, moi. Tout tableau peut être transformé, peut parler au-delà de l'image et peut devenir un autre tableau. Voilà. C'est beau comme raisonnement. Alors, bien sûr, un gars comme Noël Chilodeau, il fait plutôt des artistes de l'art brut. Donc, ils ont une façon de créer des œuvres et naturellement de peindre et de voir les choses différentes. Hein, vous prenez l'exemple de Jean-Joseph Sansfourche. Hein. Ce monsieur a fait, je ne sais pas, 4 000 œuvres, ou moins, peut-être plus même. Hein. Et il a essayé toutes les matières possibles, tous les styles inimaginables, dans sa façon naturellement de créer en tant qu'artiste. Hein. Par exemple, il a été jusqu'en Pologne chercher un fémur de mammouth pour en faire une statue, une œuvre d'art. Et je peux vous dire que c'était très joli, avec des couleurs très vives. C'est ça, l'art brut. L'art brut aussi, c'est jamais terne. Hein. C'est toujours très coloré. Hein. Vous prenez, par exemple, Chessac. Vous avez aussi un autre, là, comment il s'appelait, oh, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Enfin, je connais quelques artistes de l'art brut. C'est toujours très, très coloré, en tous les cas. Hein. Voilà, bon. C'était ça, la belle nouvelle que je voulais vous dire. Alors, on va passer à mon bouquin que j'ai fait réimprimer. Ben oui, parce que chez moi, j'ai 5000 bouquins, et je n'ai pas retrouvé le deuxième tome de Balade politique au travers d'un Prévert. Vous vous rendez compte, hein? Ben, j'ai dû le cacher derrière, parce que des fois, je suis obligé de mettre des bouquins les uns derrière les autres, sinon je n'ai pas de place. Comme j'ai des bibliothèques très profondes, ça me permet de doubler la profondeur, vous voyez? Et si ça se trouve, il est peut-être enfoui derrière. Non, bon, je ne veux pas tout démolir. Ça va plus vite de le faire réimprimer, hein? Bon, carrément. Alors, ben tiens, vous savez pas ce qui est arrivé? Vous savez qu'à une époque, il y a des chirurgiens qui avaient réussi à greffer un cœur de porc à un être humain. Eh bien, figurez-vous que la médecine a fait beaucoup mieux. Hein, eh bien, elle a greffé un corps humain sur un porc. Oui. Et je vais vous dire, alors, le porcin greffé, oui. Alors, attendez que je vous dise. C'était en 2022. Hein, et je l'écris à 1h46 du matin. Voilà. Ben oui, j'avais entendu, j'écoutais la radio à ce temps-là, parce que, et aux informations de 1h du matin, c'est là qu'on a donné la nouvelle. Hein. Alors j'étais comme un porc greffé, moi. Je me gavais de rêves, avec quelques pointes de cauchemar pour m'évader de ces nuits monotones faites de vide et de rien. Parfois, des bribes d'atrocités prenaient le dessus au détriment des rêves merveilleux en étouffant cette sérénité et ces belles envolées. Il me fallait faire des efforts pour chasser le mal pendant ces longues périodes allongées. Un jour, enfin en pleine nuit, vers minuit et quelques secondes, un rêve beau et fantastique comme un cochon greffé arriva en grognant de plaisir. C'était un homme qui lui avait offert son cœur en lui conseillant de ne pas manger que du maïs transgénique afin de ne pas avoir de rejet, de virgule mal avalé et de retour à la ligne. Faites attention à ça. Bon. Parce que même si on vous greffe un cœur de porc, faites attention. Hein. Parce qu'il y a des lardons. Hein. Je ne vous parle pas des petits-enfants, on dit les lardons, les petits-enfants. Non, des lardons. Hein, des lardons. Et du lard, et de la graisse. Faites attention à ça. Parce qu'un cœur plein de graisse, c'est pas bon non plus. Hein. Bon. Alors, ce rêve au petit matin fit le tour du monde sans indiquer que c'était mon rêve à moi seul. Les médias n'avaient pas mon autorisation pour divulguer un rêve aussi beau, sentant le lard et le pied de cochon. Il me fallait intenter un procès à chaque média pour usurpation de rêve. C'était la confrérie des porcs, des tables débarrassées, qui décida de m'aider dans mes démarches pour établir la vérité. La vérité pour les futurs greffés, bien sûr. Hein. Devant autant de demandes, les porcs prirent peur. Ils redoutaient de devenir des porcs salutaires, en plus du porc salut, fromage interdit aux cochons greffés et autrui. Cherchant une solution pour réduire la demande auprès des porcheries et de leurs habitants, je pris la décision de refaire ce rêve à l'envers. Mais c'était l'erreur à ne pas faire. Ce fameux rêve prit la direction inverse et greffa un pied de porc à un cheval de bois posé dans la chambre d'un enfant. Encore une fois, la presse, toujours pressée d'annoncer des grands rêves, ne prit pas la peine de vérifier et fila une avec un titre. Un enfant se trompe en montant sur un cochon au lieu de son cheval de bois, et tombe en s'étouffant dans le lisier. Vous vous rendez compte, les cons, hein ? Alors que ce n'était pas vrai. Depuis, je m'interdis de rêver, je reste debout, même la nuit, avec mon doudou serré contre moi. Il paraît que le contraire a été réalisé. Cœur de porc sur homo impatient, mais la presse n'en a rien dit à ce sujet. Vous voyez ? Alors, moi, je fais un rêve, toute la planète le sait. Là, il y a une vérité, c'est-à-dire qu'un cœur de porc sur un être humain, et la presse n'en parle pas. C'est pas normal, ça. Hein ? Ils me prennent pour qui ? Pour un porc ? Ben non. C'est pas moi, le porc. C'est moi qui rêvais du porc. Hein ? Voilà. Vous voyez comme quoi on peut faire des rêves à la con. Hein ? Oh. D'ailleurs, moi, je fais que des rêves à la con. C'est bien simple. C'est même pas des cauchemars. Je me réveille le matin, si je me rappelle, parce que je me rappelle pas toujours. Je me dis, mais pourquoi t'as rêvé ça ? Qui, dans la journée d'avant, t'a permis d'avoir cette idée-là ? L'autre jour, je me coiffais, alors c'est encore un rêve, hein, bien sûr, hein, parce que, et tous mes cheveux venaient avec. Et comme des fois ma fille met des perruques, je lui ai emprunté une perruque. Mais elle était brune, sa perruque, et j'avais la barbe toute blanche. Quand je suis parti dans la rue, les mecs, ils ont dit, mais... C'est une perruque qu'il a. Mais non, c'est pas une perruque. Enfin, du moins, c'est pas la mienne. Il faut faire attention hein, dans la vie, faire très très attention. Allez, pour la peine, on va passer Higelin. Adolescent, il l'a été comme tout le monde.
L'oreille divagation de ton fou. J'aimerais parfois les nuits de veille t'offrir un siège au fond de mon trou.
On dirait presque un opéra tellement c'est beau. Oh, Higelin, hein, un ténor. C'est beau quand même, c'est dommage qu'il soit parti lui aussi. Mais enfin, il a laissé quand même Arthur Ashe, qui est pas mal dans le genre, hein, au niveau de la chanson, et sa fille aussi, mais elle chante beaucoup moins. Elle. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être qu'elle est mariée avec des gosses, elle n'a pas le temps. Hein. Elle n'a pas le temps de chanter. Hein. Alors, je voulais vous lire un poème de Prévert, « La crosse en l'air ». Mais je peux pas, il fait 40 pages, le poème. Vous vous rendez compte? Et si jamais, à 40 pages, il me faudra plus d'une heure pour le lire. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je rallonge un petit peu mon émission. Et ici, on est dans un endroit où on ne peut pas. On ne peut pas rallonger les émissions. On peut rallonger les pantalons, mais pas les émissions. Bon, c'est pas grave. Alors, dans le coup, pour vous récompenser quand même, je vais vous lire « La batteuse » de Jacques Prévert. La batteuse est arrivée, la batteuse est repartie. Ils ont battu le tambour, ils ont battu les tapis, ils ont tordu le linge, ils l'ont pendu, ils l'ont repassé. Ils ont fouetté la crème et ils l'ont renversé. Ils ont fouetté un peu leurs enfants aussi. Ils ont sonné les cloches, ils ont égorgé le cochon. Pas le même hein, que tout à l'heure, hein. Bon. Ils ont grillé le café, ils ont fendu du bois, ils ont cassé des œufs. Ils ont fait sauter le veau avec des petits pois. Ils ont flambé l'omelette au rhum. L'omelette au rhum, ce serait des crêpes, mais pas des omelettes. Bon, bon enfin, ça, on ne sait pas, hein. Peut-être que Prévert, il aime ça, lui. Hein. Bon. Ils ont découpé la dinde. Ils ont tordu le cou au poulet. Ils ont égorgé les lapins. Ils ont éventré les barriques. Ils ont noyé leur chagrin dans le vin. Ils ont claqué les portes et les fesses des femmes. Ils se sont donné un coup de main. Ils se sont rendus des coups de pied. Ils ont basculé la table, ils ont arraché la nappe. Ils ont poussé la romance. Ils se sont étranglés, étouffés, tordus de rire. Ils ont brisé la carafe d'eau frappée. Ils ont renversé la crème renversée. Ils ont pincé les filles. Ils les ont culbutées dans le fossé. Ah ! Ils ont mordu la poussière. Ils ont battu la compagne. Ils ont tapé des pieds. Tapé des pieds, tapé des mains. Ils ont crié et ils ont hurlé. Ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ont dansé autour des granges et le blé était enfermé. Où le blé était enfermé, moulu, fourbu, vaincu, battu. C'est pas beau, ça, hein? Ah, j'aime bien, moi, ils ont battu la campagne. C'est pas ce qu'on dit pour les élections. Ils battent la campagne, hein, il me semble. Bon, alors attendez, là, je vais quand même vous faire écouter quelque chose. Alphonse Allais, ouais, Alphonse Allais. Alors, je me souviens, il y avait une maîtresse, elle disait, Alphonse Allais. Et un gamin, il dit, où ? Il allait où ? Alors, le bon peintre. Vous voyez, on est souvent dans l'art pictural, hein, avec notre ami là, Noël Philodeau, là, ici, Alphonse Allais. Il était à ce point préoccupé de l'harmonie des tons que certaines couleurs mal arrangées dans les toilettes de provinciales ou dans les toiles de membres de l'Institut se faisaient grincer douloureusement comme un musicien en proie à de faux accords. À ce point que pour rien au monde, il ne buvait de vin rouge en mangeant des œufs sur le plat parce que ça lui aurait fait un sale ton dans l'estomac. Une fois que, marchant vite, il avait poussé un jeune gommeux à par-dessus mastic sur une devanture verte fraîchement peinte, prenez garde à la peinture, s'il vous plaît, et que le jeune gommeux lui avait dit « Vous pourriez faire attention !» Il avait répondu en clignant à la façon des peintres qui font de l'œil à la peinture « Mais de quoi vous plaignez-vous? C'est bien plus japonais comme ça !» L'autre jour, il a reçu de Java la carte à Java, l'île de Java, hein. La carte d'un vieux camarade en train de chasser la panthère noire pour la grande maison de fauve de Trieste. Un attendrissement lui vint que quelqu'un pensa à lui si loin et si de si longtemps, et il écrivit à son vieux copain une bonne et longue lettre, une bonne lettre très lourde dans une grande enveloppe. Comme Java est loin et que la lettre était lourde, l'affranchissement lui coûta les yeux de la tête. L'employé des postes et télégraphes lui avança hargneux 5 ou 6 timbres dont la couleur variait avec le prix. Alors, tranquillement, prenant son temps, il colla les timbres sur la grande enveloppe verticalement, en prenant bien soin que les tons s'arrangeassent pour que ça ne gueule pas trop. Que ça ne gueule pas trop, oui. Visuellement, je pense, hein. Presque content, il allait enfoncer sa lettre dans la fente béante de l'étranger. Oui, enfin, vous savez, il y a marqué local, national, étranger, hein, des fois sur les boîtes. Hein. Quand un dernier regard cligné le fit rentrer précisément. Encore un timbre de 3 sous ? Voilà, monsieur. Et il le colla sur l'enveloppe au bas des autres. Mais monsieur fit simplement remarquer l'employé. Pardon, excusez-moi, votre correspondance était suffisamment affranchie. Ça ne fait rien, dit-il. Puis, très complaisamment, c'est pour faire un rappel de bleu. Donc c'était pour que ça fasse plus joli. Eh oui, eh ? Ben oui, parce que c'était un artiste, hein, le bon peintre. Alors c'est ça, parce que comme il était peintre, mais qu'il faisait une œuvre d'art avec des timbres, voilà, il lui manquait une petite touche de bleu. Vous vous rendez compte quand même, hein, les artistes jusqu'à où ils vont, hein. Jusqu'à envoyer des lettres à Java avec une œuvre d'art sur l'enveloppe. Alors, en parlant de ça, justement, j'avais un copain, malheureusement, il est décédé. Tous les mois, il m'envoyait une enveloppe avec un dessin adressé à Maurice Mallier, président des hydropathes et des je ne sais pas quoi. Des fois, il mettait des grosses blagues. Et le facteur, quand il m'apportait l'enveloppe, il me disait « Ça, c'est votre copain qui vous envoie une... » Et on commentait l'enveloppe ensemble. Deux fois, c'était marrant parce qu'une fois, il m'avait mis avec Sarkozy. Et Sarkozy me demandait comment on fait pour être président. Parce que moi, je suis le président des hydropathes, vous voyez. Que des blagues comme ça. Hein. C'était sympa. Et le facteur, il se marrait bien. Hein. Alors maintenant, des fois, j'en repasse des anciennes. Hein, ou certaines que je n'ai pas publiées, des fois. Parce que j'ai tout gardé en numérique. Hein. Vous verriez, mes ordinateurs sont complètement bourrés de choses. Des photos, des textes, des dessins. Des... Oh, incroyable. Vous savez, je fais collection de ceux qui ont copié la Joconde, qui ont fait des trucs avec la Joconde. Vous savez combien j'ai déjà récupéré de copies ? 5 000. J'ai 5 000 Jocondes différentes que les gens ont pastichées. Il y en a une, par exemple, elle est complètement bourrée avec son verre à la main, elle a les yeux hagards. Putain, si Léonard de Vinci revenait, il pourrait l'engueuler, hein, je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, il pourrait engueuler peut-être d'ailleurs tous les cons qui l'ont plagié, et puis toutes les Jocondes également. Hein, parce qu'elles se sont laissées faire, quelque part, par le plagiat. Hein, alors, c'est pas le plagieur. Le plagieur, c'est sur les plages. Hein. Mais non, mais c'était plagiat. Pas Piazza, vous savez, le fameux gars là, qui s'est fait entrôler, là, il vendait des appartements, il avait une émission Piazza, hein. C'est pas le nom, c'est plagiat, bon, hein. Quoi, qu'est-ce que tu dis, Edwige? On dit pas plagiat? Alors comment on dit? Il dit copie? Mais non, copie, imitation? Peut-être, mais bon, moi, c'est un plagiat, bon, hein. Un plagiat. D'abord, ça, le mot plagiat, il fait un peu italien, hein, tu vois. Plaza, la plaza, la plagia, tu vois. Et au final, Léonard de Vinci et sa petite copine, la Joconde, ils étaient en Italie. Hein. C'est François Ier qui a fait venir Léonard de Vinci en France, hein, au château de, je ne sais plus quoi, le beau château, un des plus beaux châteaux de la Loire. Hein. Ben oui, mais toi, tu ne savais pas ça. Tu n'as pas appris ça dans ton histoire de France? Ah, mais c'est vrai que t'es pas en France. T'es à Bora Bora. Ah, c'était sûr que votre histoire de Bora Bora n'est pas aussi riche que l'histoire de France. Hein. Ah, bah ça, c'est évident. Ah, non, non. Ne me dis pas le contraire. Ah, non, arrête. Comment ça? Mais non, Charlemagne n'a jamais été à Bora Bora. Tu racontes des conneries, là. Fais gaffe, hein, moi, je vais te quitter hein, si tu racontes des conneries comme ça. Parce que moi, j'aime bien les choses nettes, la vérité. Tu vois? Hein? Charlemagne, qu'est-ce qu'il a fait en 1515? Il a fait la bataille de Marignan. Ben oui, tu le savais pas, c'est normal que tu le savais pas. Allons, tu restes là sur ta petite île, là, hein, à compter les fleurs, hein, à te mettre des fleurs dans les cheveux, et tu te mets des pareos en couleur, hein. Tu peux pas mettre, comme tout le monde, un pantalon et une chemise. Ah, c'est vrai que t'es une femme, toi, oui. Ben, des robes. Ou un pantalon et un chemisier, tu peux te mettre. Bon, allez. Dans le coup, avec toi, là, je suis en train de paumer des minutes d'émission, hein. Allez, va te coucher. D'abord, vu l'heure qu'il est, tu peux aller te coucher. Allez, bonne nuit. Bon, alors, on était où, là, dans le coup? Parce qu'elle m'a complètement énervé, hein, Edwige. Hein. Oh là là, c'est chiant, ça. Hein, des gonzesses comme ça. Oh là là, bon. Allez, alors. Oh, tu sais, qu'est-ce que je vais vous lire, là? Il nous reste combien de temps, là? Oh, et puis en plus, tu m'as bouffé au moins 5 minutes, là. Hein? Bon. Allez, Claude Mercutio. Voilà. Oh, prostituée du monde. Oh, 2023, 20h25, à la terrasse d'un café qui s'appelle l'Étoile de Montreuil. Alors lui, il est encore plus précis que moi. Et là, il en a, il l'a fait dans le TGV. Oh, toi, la femme brisée, prostituée du monde, tu offres ton amour à ceux qui n'en ont pas. Comme ils sont trop nombreux, ils doivent te payer l'illusion du rêve. Mais qui t'aimera, toi ? Dont nul ne se soucie, ton amour est un leurre. Et deviens marchandise. J'ai envie de t'aimer avec sincérité, non pour ton corps parfait, mais pour ton regard lasse, qui a trop vu de choses et demande merci. Tu es fille de joie, seulement pour les autres, mais ton cœur est si lourd, trop noir et douloureux. Tu es ange et démon par ta fatalité. Il te faut du courage pour assumer ton rôle. Je voudrais te sauver. Ou me perdre avec toi. Oh, que c'est beau. Oh là là. Elle devait être belle, hein. Certainement, hein. Bon, après tout, qu'est-ce que je vais vous dire, ben Ah, le tien, petit Daniel Malbranque, hein ? Vous connaissez Malbranque quand même, hein ? Ben oui, vous le connaissez, c'est un copain de... C'est un copain de poésie, on va dire. Il fait partie des hydropathes. Allez, tiens, l'irréel. Alors, il l'écrit en un seul mot, hein ? Alors, L, Y, et le mot réel, comme ça s'écrit. Hein. De même que la chatière est faite pour les chats, n'y a-t-il point, Morgane, de fatière pour les fées ? Dans la haie des lauriers, quand le regard émerveillé s'habitue, voir Morgane, cette porte vermoulue et tout entrebâillée et bleue de cet azur réel, non, irréel, pardon, qui porte à rêver à d'innombrables cohortes des elfes et compagnie. Pirevoltant parmi des idées belles, au son des lyres idéales. Est-ce ce reflet qui laisse paraître, ou effet d'optique, autorisant l'infini paysage, vers des autres mondes inspirés et inconnus ? Il y fait tant doux, d'onirique solfège, comme l'on dirait, tant d'arpèges, tant de neige, tant beige, tant de sortilèges. Écoute, Morgane, écoute. Tout s'y renverse, les chats font tâche, les chiens nichent, les blattes à table, des blatères et l'aval se dévalent autant qu'un piano pianissimo. Oh, Gorman, ah oui, là, il a complètement bafouillé, hein, Morgan, Gorman, suit la sente anisée, puis la pente alisée qui fleure bon les catères, vois comme les herbes à mesure grandissent, et déjà au-dessus de ta tête, vole les akènes, voltige les aigrettes. Le ciel est mauve, s'emplit d'ombres nuages, souple et multivisage, s'épanouissant soudain en long cirrus puis stratus. Vois le grand sourire dans les rues qui disparaît, dans les nues, pardon, qui disparaît, sous les mues, non, les nues. Ah, ils nous emmerdent avec les nues. Bon, parce qu'elle peut faire aussi sa mue, hein, Morgane. Alors, sous les nues, ton pas est mystérieux, silencieuse, ta femelle, semelle, pas ta femelle, hein, la semelle, sur la pelouse douce, comme un chamallow, tes pieds deviennent chenilles, et le temps chewing-gum, expansif aux bulles qui pétillent. Saute, très saute, attrape les ballons indolents, hein, la si fine joie comme soie sur la joue. Déjoue-toi des lourdeurs de jour en jour, te laissant pisque plomb, libère ton cœur de sirène et belle justice devient chaton de laine. Voilà. Je ne vous lis pas la suite parce qu'il y en a encore. C'est un peu comme Prévert avec 40 pages. Hein. Mais ils sont cons ces poètes-là de faire... Et dans le coup, on me fait signe que l'émission est finie. Merde, je viens juste de commencer. Oh, je me plains dans la direction. Ah, non, ça ne peut pas durer. Mais ça, c'est à cause de toi, Edwige. Hein. Tu m'as piqué 5 minutes de mon émission, là, à des conneries. Bon, allez, chers amis, tant pis pour vous. Je m'en vais, le cœur triste, mais quelque part, je vous aime.